Bonjour à tous. Voici la revue de presse des mensuels chrétiens. Je suis en compagnie d'Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Liliane.
En compagnie de Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour
et
Liliane.
J'ai une auditrice. Bonjour Céline, qui bonjour. Prendra ma place plus tard. Eh bien, nous allons aborder les revues suivantes. Panorama, Croire, Le Monde des Religions et La Croix Campus. Et Muriel va commencer justement par des articles de La Croix Campus. D'abord, la précarité chez les étudiants.
Voilà, donc c'est le numéro 221 de janvier, donc, qui s'intitule effectivement pour le premier article « Étudiants et précaires, ils racontent ». Donc en fait, on retrouve trois étudiants qui racontent un peu leur vie d'étudiants avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà, donc c'est le 8 novembre dernier à Lyon, un étudiant a tenté de mettre fin à ses jours. Parce que voilà, ils s'en sortaient pour dénoncer donc, ses conditions de vie. Alors c'est un acte désespéré, mais qui met en lumière la précarité dans laquelle vivent de nombreux jeunes durant leurs études. Ils jonglent avec leurs études et le travail. On nous dit qu'un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Et en 2015, 19% des étudiants vivaient avec moins de 60% du revenu médian, donc qui s'élevait alors à 987 euros par mois. Donc un gros tiers de boursiers, nous dit-on. 46% des étudiants mènent parallèlement une activité salariée qui est susceptible de fragiliser leur parcours académique. Près d'un tiers des étudiants interrogés avaient renoncé à des soins pour des raisons financières. Donc on voit bien que ça touche l'alimentation, les soins, enfin voilà. Donc on nous propose pour l'avenir plusieurs idées. Donc revoir l'attribution des bourses, développer des stratégies d'alternance, lancer un plan de refonte des aides sociales. Il existe déjà, mais elles sont encore à développer. Des épiceries solidaires pour des étudiants démunis, donc, qu'on appelle les agorae. Elles se sont multipliées. On en compte aujourd'hui 20 en France. Et là, donc, ces épiceries donnent un bon coup de pouce à ces jeunes. C'est vraiment indispensable pour les 2400 bénéficiaires. Voilà.
Merci. Et toujours dans la même revue, La Croix Campus, là, un mois sans alcool.
Oui, alors c'est pour le mois de janvier. Faut-il promouvoir un mois sans alcool? Alors, au Royaume-Uni et dans certains pays, on nous dit que des millions de consommateurs s'abstiennent de boire de l'alcool en janvier après les fêtes. En France, le ministère de la Santé aurait renoncé à la campagne publique pour ce mois sans alcool, selon des associations et addictologues qui dénoncent la pression du lobby du vin. Alors, les professionnels de la lutte contre l'addictologie ont largement soutenu l'initiative. Ils l'ont fait car ils connaissent les conséquences très positives de ce type d'expérience. Des études donc, ont fait apparaître une amélioration du sommeil, une perte de poids. Donc, c'est une sorte de carême, nous dit-on, qui permet de rappeler que l'alcool n'est pas un produit anodin. Dans les faits, ce type de campagne permet de prendre conscience au grand public que l'alcool est un produit qui déclenche des effets dès le premier verre. Cela permet de responsabiliser les Français. Et les pouvoirs publics ont pris au sérieux la question du tabac, mais ils refusent de regarder en face des problèmes posés par l'alcool. Alors, pourquoi ça? Donc, les médecins addictologues considèrent l'alcool comme une drogue. L'alcool est une histoire de degrés. Le vin consommé avec modération est considéré comme un plaisir qui fait partie, bien sûr, de la vie. Donc, voilà.
Merci, Muriel. Eh bien, Émilie, dans le monde des religions, va nous parler du Coran historique.
Et oui, mon choix s'est porté sur un livre aussi passionnant qu'audacieux. C'est Le Monde des Religions, donc, à travers son journaliste Loïc Druenne, qui propose un article sur Le Coran des historiens. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Mohamed Ali Amir Moisi et Guillaume Di. Alors, le premier est français, né en Iran, historien, islamologue, spécialiste de l'islam chiite, enseignant à l'école pratique des hautes études de Paris. Le second est français, islamologue également, spécialiste des études coraniques et enseignant à l'Université libre de Bruxelles. 28 auteurs ont participé à cette étude historique du Coran en 3 volumes, dont le but n'est pas d'amoindrir la portée spirituelle du livre sacré des musulmans, mais bien de le replacer dans un contexte pour mieux l'éclairer et aussi pour lutter contre une interprétation simpliste et réductrice du texte trop souvent mise en avant par les extrémistes. Il s'agit d'un travail considérable qui débute dans le premier volume avec les origines du Coran. Le Monde des Religions liste une série de questions auxquelles le livre répond. Qui a écrit le Coran? Quand? Dans quel contexte? Que trouvait-on en Arabie à l'époque du prophète? Le deuxième volume s'attaque au texte. S'attaque car, nous dit Loïc Druen, les 114 sourates qui composent le Coran sont patiemment commentées, décortiquées et replacées à leur tour dans le contexte de leur rédaction. Le troisième volume, enfin, est une bibliographie géante de toutes les œuvres consacrées au Coran à travers les siècles. Inutile de rappeler le sérieux de cette étude historique qui n'est pas sans précédent, mais il a fallu tout de même attendre un siècle pour qu'une telle entreprise voie le jour. On la doit à des chercheurs des universités de Bruxelles, Louvain, Madrid, Princeton, Jérusalem ou encore du Collège de France. Une démarche bien sûr controversée car c'est une approche purement et seulement historique, scientifique, de quoi contrarier les partisans d'un islam limité aux sourates coraniques prises hors contexte et au premier degré. Au contraire, ici, encore une fois, il ne s'agit pas de contester le caractère spirituel du livre, mais d'éclairer le texte sous un jour nouveau, comme les chercheurs ont pu le faire avec les autres grandes religions, le christianisme en tête. Une étude colossale de 3000 pages pour découvrir le Coran différemment. Le Coran des historiens s'est donc paru en coffret aux éditions du Cerf pour 59 euros.
Qui n'est pas excessif finalement pour...
Vu la somme de travail, absolument. Non, sûrement pas.
Oui, oui. Ça, c'était dans Le Monde des Religions, c'est numéro ça. 99 de janvier-février. Je vais terminer par, donc, Panorama. Panorama de janvier 2020, c'est le numéro 569. Une rencontre avec Marie-Laure Choplin. Alors, c'est une formatrice qui vient de publier deux livres de spiritualité. Elle n'osait pas le faire et puis, finalement... Quelqu'un a lu ses livres et a dit « mais il faut absolument publier ça ». Bon, alors j'aime bien ce qu'elle dit de Dieu. C'est elle qui parle. Hein. « Dieu n'est pas présent à certains moments. Il n'est pas plus présent dans la prière que dans l'épluchage des légumes. » Elle est accompagnatrice spirituelle et pour elle, il faut prendre vraiment acte du réel et se dire que c'est là qu'il faut être parce que c'est le réel. Et elle croit que Dieu nous attend à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et alors, elle prend une comparaison, ça m'a fait sourire, elle dit « Si on entre bien dans le mouvement, on reçoit des ressources pour vivre ce réel. » Alors, elle dit bah, « C'est comme si, par exemple, je descendais un escalier pour aller à la cave et puis finalement, je me dis « Ah non, je ne vais pas y aller parce qu'il fait trop noir. » Mais si je fais une première marche vers la cave, alors là, il y a le Seigneur qui allume une petite lampe et qui va l'allumer à chaque pas que je fais pour arriver jusqu'à la cave. Et Jésus ne va pas entrer comme de force, hein, pas entrer comme un voleur, mais il faut lui ouvrir la porte. Voilà. Dans les cahiers croire, janvier-février 2020, numéro 327. Alors, les cahiers croire, vous savez, il y a toujours un titre général, et ça se divise en trois cahiers. Vous avez un cahier biblique, un cahier théologique et un cahier pratique. Un cahier pratique, ça c'est pour Muriel. Bon, alors, moi, j'ai donc pris le cahier Bible. Alors, le titre général, c'est « La croix, un trésor universel ». Alors, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on parle de la croix? Eh bien, jamais. Jamais. Il est question de punition une vingtaine de fois dans l'Ancien Testament, mais la punition, c'est « on va te mettre sur le bois ». Ça veut dire que quand quelqu'un est mort, alors là, on le montrait sur une croix. Mais il était mort avant. Alors que la crucifixion, c'est autre chose. C'est vivant que Jésus a été cloué sur la croix. Jésus et les autres, hein, parce que c'était, les Romains utilisaient ça assez souvent. Hein. Donc, on trouve ça donc dans l'Ancien Testament, mais uniquement sous cette forme-là. Alors, c'était une infamie, hein. Et il fallait surtout ne pas laisser exposer pendant la nuit. Parce que chez les Juifs, il faut absolument que la personne soit inhumée avant la nuit. Hein. Alors on trouve ça, ce genre de punition, dans toutes sortes de pays. Hein, chez les Assyriens, en Égypte, le roi David lui-même, hein, le roi Darius. Bon, on trouve ça dans les textes de guerre, les textes de calamité, où on expose l'ennemi vaincu sur le bois. Alors pourquoi est-ce qu'on l'expose ? Ben, ça peut être parce qu'on affirme qu'on a été vainqueur, Ou alors, c'est un avertissement. Attention, il va vous arriver ça. Donc, aucun texte de l'Ancien Testament ne présente le supplice par suspension d'une personne vivante à une potence ou à un pieu. Alors, après ça, on nous parle, alors cette fois-ci, de la croix. Et on nous dit que les premières communautés chrétiennes, elles n'utilisaient pas du tout le signe de la croix, comme nous, on voit la croix partout, hein, dans les peintures, enfin bon, pas du tout. C'était des signes cryptés, parce qu'il fallait déjà se cacher au début, hein, des symboles. Alors, par exemple, on avait le poisson, mais on avait aussi la forme grecque de la lettre grecque « qui », qui s'écrit finalement un « X ». Donc, ça représentait la croix. Et c'est seulement à partir du 3e siècle qu'on commence à graver une petite croix, mais une petite croix grecque, c'est-à-dire une croix avec les quatre parties égales. Hein? Il faudra attendre la conversion de Constantin pour qu'enfin on exhibe une croix. Et surtout, après les recherches que l'on a faites au Golgotha, où on a réussi à déterrer une croix. Alors, certains affirment que c'était la croix sur laquelle se trouvait le Christ. C'est pas un article de foi, de toute façon. Hein. Mais à partir de ce moment-là, c'est-à-dire aux environs de 325, la croix a commencé par représenter vraiment, par être le symbole des chrétiens. Donc voilà, c'était pour Panorama. Dans le monde des religions, janvier-février, numéro 99, le gros dossier, c'est l'habit fait-il le moine et fait-il surtout le croyant ? Donc, le premier article nous renvoie à Adam et Ève qui étaient nus. Et quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils ont vu qu'ils étaient nus alors qu'avant, ils ne le voyaient pas. Et l'article dit, alors c'est de l'humour, hein, que Dieu a été le premier couturier puisqu'ils ont revêtu des peaux de bête. Hein. Alors, ça, c'est dans la religion chrétienne. Mais par exemple, chez les hindous, dans l'hindouisme, être nu, c'est une valeur supplémentaire. Quand on est vraiment très profondément croyant, on finit par se détacher des choses de la vie et on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de se montrer avec des habits, tout ça. Donc, c'est le summum, c'est d'être nu. Et puis, après ça, il y a un article qui s'intitule « Dans le vestiaire du Vatican ». Alors là, écoutez, lisez-le. C'est absolument... Vraiment drôle. Alors, on explique que le rouge, c'est la couleur du sang des saints, que le blanc, c'est la pureté, que le pape, il est le seul à s'habiller en blanc, ce qui est faux, parce que les bénédictins sont aussi en blanc, les chartreux sont en blanc, les missionnaires en Afrique, par exemple, se mettent aussi en blanc, peu importe. Alors, on parle aussi de l'évolution du costume, que maintenant, il y a des prêtres qui reviennent à la soutane, que c'est une opposition à Vatican II. Et puis, on nous parle aussi de l'évolution dans la liturgie. Et je termine par quelque chose d'assez amusant. Il y a un article qui s'intitule « Retour aux dentelles de Benoît XVI ». Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
On n'en dira pas plus.
Comment ?
On n'en dira pas plus. Hein.
Alors, toutes ces revues-là sont à emprunter, si vous le voulez, à la parenthèse. C'est gratuit. Venez, empruntez, mettez votre nom quand même. Voilà, c'est terminé. Au revoir à tous.
Alléluia, 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 alléluia. Parole et vérité, et ta loi délivrance, heureux tous ceux qui l'entendent.